Parla del tempo. Alors, je préfère qu'il s'y explique quelques cours avant la fin de l'année, que vous me disiez vous-même ce que vous avez étudié sur le sujet qu'on a eu pendant l'année, enfin que si vous avez le mot, vous allez me dire tout de suite. Vous arrivez à m'entendre? On verra. Ça va venir. Parce que si je me mets à récapituler ce qu'on a fait pour pouvoir avancer, ça me prendra trop de temps. En tout cas, pour ceux qui étaient déjà là depuis le début de l'année, si vous avez des questions ou des sujets à traiter, on va essayer de le faire maintenant et les deux ou trois derniers cours qui resteront ensuite. Pardon, je peux avoir un bout de papier, peut-être. Ok. Je ne
sais pas si c'est l'intérêt du public, mais c'est pour la droite de nos généalogies, des générations. Non, le sens, le sens de la génération.
Je veux dire, la généalogie de Caïn et celle de Chet.
Oui, et puis celle d'Abraham. Après, c'est la généalogie de Caïn, et puis de Noah par
Abraham. Ok. Alors, quelle est la question?
C'est pas une question, c'est la suite. Le nom indique, je ne sais pas, plus tard, certains endroits, vous avez montré comment le nom indique ce qui se passait dans cette génération. Et à d'autres endroits, vous n'avez pas une question, vous pouvez voir toutes les
générations. Oula, c'est énorme avec un H devant. On n'aura jamais le temps. Mais si vous voulez qu'on prenne ce sujet, on peut essayer de prendre un exemple d'un passage. Alors, si vous avez les livres, ça dépend parce que il faut le comprendre surtout en hébreu. Bon, on va faire de l'hébreu.
Non, je sais pas, c'est pas un
bonheur.
Je sais pas si c'est une bonne idée.
Je vais d'abord expliquer le sujet, vous allez me dire si c'est ce sujet qui vous concerne. Je crains que je vais avoir des difficultés à parler. Vous arrivez à m'entendre, au fond, doucement. Donc, alors prenez vos livres de Bereshit, s'il y en a encore, tu les distribues. Oui. Premièrement, il faut découvrir que dans la préface historique de la Torah, qui commence depuis Adam Arishon jusqu'à la sortie d'Égypte, nous avons un certain nombre de textes, assez nombreux, qu'on peut appeler en français des généalogies. Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt de savoir comment s'appelait le personnage principal de chaque génération pendant le déroulement des générations qui vont depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham. Et à partir d'Abraham, bien entendu, on comprend mieux l'intérêt. Mais la question s'est souvent posée. Alors vous avez deux tendances par rapport à ce problème. Et je ne vous citerai pas des noms d'érudition, mais enfin, qui répondent à cette question. Je rappelle la question. Étant donné l'importance qu'a le texte de la Torah, comment se fait-il que la Torah a accordé une telle place à des récits apparemment pas tellement chargé de messages, d'informations, et qui pourraient être définis comme cependant être des pistes de généalogie. Dans la Gemara de Sanhedrin, si je me souviens bien, page 90, page du Kazé, justement à une attitude un peu insolente vis-à-vis du texte de la Torah qui consiste à dire qu'il y a des versets qui n'ont pas de sens. On appelle ça Abedot Sheldof. Si vous avez étudié ces sujets-là. Par exemple, nous avons dans la généalogie d'Ésaü, alors ceux qui ne sont pas prévenus de l'importance de ces indications, ça va être l'objet de l'étude, alors pourraient se demander s'il n'y a pas quelque chose de purement, même pas anecdotique, enfin, vain, véhaïen, qui ne véhicule aucune signification. La Torah raconte que la lignée d'Ésaü a dépossédé le pays de Séir, qui était occupé préalablement par une peuplade qui s'appelait les Horites. Et on nous donne toute une série d'indications, de généalogies, des princes de Séphorite qui ont été remplacés par la descendance des princes des Aïe. Alors on pourrait se demander pourquoi dans un livre comme la Torah il y a des indications pareilles. En particulier, je vous donne le verset d'ailleurs, en particulier on apprend qu'un de ces princes s'appelle Lotan, rien à voir avec les latins, et je le signale parce que les consonnes n'ont rien à voir. En fait, d'après la tradition des généalogies de la Torah, c'est un prince de la lignée d'Ésaü, qui s'appelait Magdiel, qui aurait fondé Rome. Mais c'est pas Lotan, c'est un prince des Rome, bien que ça ressemble. Il nous indique que la sœur de Lotan s'appelait Timna. Alors, poser la question de savoir, et je vous trouvais la référence, pourquoi la Torah nous raconte des détails pareils, mettrait en question, disons, le respect que l'on doit au texte de la Torah, et on appelle à cela Agadot Philosophie. Vous savez, des gens qui sont intelligents en général, là je reviens dans l'actualité, parce que vous allez lire énormément de livres qui traitent du judaïsme, de la Bible, des thèmes d'enseignement même de la Torah Shebaalpé, et très souvent on peut être étonné de l'intérêt renouvelé qu'il y a de notre temps par rapport aux études bibliques, mais très souvent il y a des attitudes pas tellement. Chaque mot aujourd'hui en français, c'est pas grave, ça va s'arranger. Des attitudes pas tellement respectueuses, disons, de l'importance et du kavod que l'on doit au texte de la Torah. Et je me rappelle une phrase du rabbin Bernheim à ce sujet que beaucoup de leurs propres idées. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà, le Talmud a parlé de cette attitude en appelant ça Agadot Shendofi. Alors, comment traduire ça? Agadot Shendofi. Des explications. Non. Traduire l'expression en français. Agadot Shendofi. Dofi, ça veut dire tourner en dérision, mépriser. Pour quand elle va apporter un verre de thé, ça ira mieux. En réalité, la Gemara de Sanhedrin nous donne un exemple pour nous indiquer à quel point toutes ces indications sont importantes. Ça va, je vais vous donner un choix. Alors, je vais commencer par cet exemple, puisque j'en parle, Ken, et après je vous prendrai le sujet lui-même, que je vais quand même déjà indiquer, pour que ne soyez pas trop impatients. En français, nous avons un terme, un mot, qui est le mot de « homme ». Et nous avons une sorte de postulat dans le discours français que tous les hommes sont des hommes, alors que pour la Torah, à chaque génération, l'identité humaine a une signification différente à travers le nom qui la désigne. Je m'explique. À la première génération, l'homme s'appelle Adam. Alors, en hébreu, le mot de Adam signifie l'homme, il y a d'autres mots pour dire l'homme, d'ailleurs, dans les profils d'identité différents. Si je désigne la nature humaine en général, alors c'est le mot de Adam qui traduit l'identité humaine en général. C'est-à-dire, tous les hommes sont des Bnei Adam, et tous, sans exception, ont premièrement l'identité de Adam comme première couche d'identité. Et ensuite, à l'échelle individuelle, le profil de l'identité humaine en chacun se modifie d'après l'histoire de sa lignée. Et alors, la Torah emploie un nom propre différent à chaque génération. Je reprends cet exemple. À la première génération, Adam, ça veut dire Adam, mais ça veut dire aussi, je ne sais pas comment exprimer ça, le nom propre de quelqu'un singulier, un individu en particulier, qui, indépendamment du fait qu'il était homme, Adam, il était, si j'ose dire, Monsieur Adam. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, si je veux dire. En français, nous ne disposons pas d'une catégorie pareille, pourquoi je vais la décrire par approximation. À la deuxième génération, le fils de l'homme s'appelle Caïn. Eh bien, le mot de Caïn désigne non seulement l'individu particulier qui a comme dénomination Monsieur Caïn, si j'ose dire, mais le mot de Caïn désigne, comme à la première génération pour le nom de Adam, une manière d'être homme qui s'appelle Caïn. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et ainsi de suite pour toutes les choses. C'est-à-dire, lorsque la Torah énumère un tel a engendré un tel, au-delà d'une simple apparence d'un compte-rendu d'état civil qui serait anecdotique, donc on revient au niveau avec la géographie, et la Torah nous désigne une mutation d'identité, et à chaque génération, l'identité humaine devient ce qu'elle est nommée. Et par conséquent, pour comprendre ce que la Torah veut nous transmettre par là, il faut comprendre ce que signifie en hébreu le nom propre de l'homme à chaque génération. Par exemple, si nous posons la question au niveau de la première génération, on est tellement habitué à cela, tant à travers l'hébreu superficiel que le français, que Adam, ça veut dire homme. Mais quel est le sens en hébreu de la racine Adam? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Dame, non. Dame, ça veut dire le sang.
Dame, Elohim, Adam.
Non, ça c'est des halomot de Midrash inventés. Je ne jouais pas à ça, je perdais du temps pour rien. Tu commences à dire, je ne sais pas si tu as lu ça. Vous avez entendu, mais si tu as un Midrash qui enseigne quelque chose de ce genre précis, tu cites le Midrash. Et la question est de savoir si on l'a compris ou on l'a pas compris. Mais qu'est-ce que le Midrash a dit? Je vais vous donner un exemple, c'est important pour la question de mes têtes. Il y a, étant donné le génie particulier de la langue hébraïque, surtout du Lashon HaKodesh, de l'hébreu dont se sert la prophétie hébraïque, comme vous le savez, ce n'est pas une langue stable de communication de conscience, c'est une langue qui exprime une révélation de vérité, et par conséquent, les procédés grammaticaux de la langue sont beaucoup plus complexes que pour une langue dite habituelle. Okay? Alors, je ne vais pas vous énumérer tous ces procédés, c'est un autre sujet. Et je vais donner un exemple. Le Talmud interdit d'inventer une relation d'association d'idées qui pourrait frapper, et qu'on appelle par exemple Gezerah Shavah. J'ai appris que c'est la Gezerah Shavah. Si je trouve dans un verset un mot qui est à expliquer dans le verset, mais je trouve ce même mot dans un autre verset, alors il y a un raisonnement par analogie qui consiste à établir que de même que ce mot, le mot en question a une signification connue dans un verset, on va rapporter cette signification connue dans l'autre verset. La Gezerah Shavah, c'est raisonnement par analogie. Le raisonnement par analogie, c'est le raisonnement le plus aléatoire qui existe. Je ne sais pas si vous avez étudié les procédés de raisonnement en logique. Il y a la déduction, il y a l'induction, qui ont des règles précises de raisonnement, et il y a le raisonnement par analogie. Or, le domaine des sciences dans lesquelles la méthode de raisonnement, c'est la déduction, ou celle dont c'est l'induction, ont des règles très précises, mais le domaine de tout ce qui concerne l'homme, c'est le raisonnement par analogie. Or, c'est le raisonnement le plus aléatoire, le plus risqué. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez ce procédé qu'on appelle le notaricon, mais pas familier à cela. Okay? En français, ça s'appelle l'anagramme. Okay? C'est-à-dire, un mot peut devenir une phrase si je prends chaque lettre du mot comme début d'un autre mot. Vous connaissez ça? Ça s'appelle Rachet et l'autre, en hébreu.
Vous pouvez
répéter? Je prends un mot. Par exemple, dans la paracha de la semaine, ça donnera l'occasion de contexte. Lorsque Moïse a institué le premier Sanhédrin, les 70 sages qui vont devenir le premier Sanhédrin de son temps, et alors il a transmis la capacité de prophétie à ceux qui devaient devenir les membres du Sanhédrin. Alors, comment ont été désignés les membres du Sanhédrin? Ils devaient être au nombre de 70. Alors nous savons qu'il y a 12 tribus. On a donc désigné 6 représentants dans chaque tribu. Par conséquent, il y en avait 2 de trop. Et donc, il a fallu tirer au sort 70 sur 72. Mais comme les 72, les 2 supplémentaires, si vous voulez, je m'en occupe pas, 2 supplémentaires avaient la même prérogative, ils se sont mis à prophétiser comme les autres. Mais en dehors de la légalité des 70. Mais qu'est-ce qu'il prophétisait? Il prophétisait que Moïse va mourir et c'est Josué qui va le remplacer pour faire entrer le peuple en Eretz Israël. C'est un des sujets de la paracha. Alors le verset dit, qu'ils étaient Mitnabéim. Il n'y a pas de tableau, mais enfin, essayez de visualiser. Vous allez écrire les deux mots pour avoir cet exemple. Mitnabéim, c'est même, continuez, Mitnabéim. Ken. Aleph, Yud, Mem. Alors, si vous me souvenez bien, c'est un autre icône assez connu, Mitnabéim. Il y a d'abord Met, Moshe, Yashdecha. Il y a d'abord Mem, Moshe. Et après, c'est Tav. Alors, Tav, c'était quoi? On va dire. Je vous dis la suite. Moïse va mourir, il va aller dans le Gan Eden, et Josué va le remplacer. Ça veut dire, l'enseignement que donne un Midrash, la Torah Sheh Ba'al Peh, est mis en évidence à travers ce procédé qu'on appelle le notarikon. Alors vous allez voir, c'est même Moshe, Tav, ça me reviendra, ensuite Beth, c'est Began, Aleph, Elohim, Yud, Yehoshua, Machnis, bien fait, c'est ce notarikon. Et alors, ça c'est un notarikon connu et qu'on peut utiliser parce que les maîtres l'ont enseigné dans la Torah Sheh Ba'al Peh. Mais vous voyez qu'avec ce même mot, on pourrait faire sortir n'importe quelle phrase. Et je vais vous donner un exemple pour vous dire à quel point c'est dangereux. Vous voyez, tu l'as, c'est dans le baratru. Tiens, c'est dans le baratru.
Deuxième.
Déjà, Moshe, Tanouar, Nafsho, Began, Elohim, Yehoshua, Machnis. C'est-à-dire, Moïse, son âme va aller au repos du jardin de Dieu, Josué fera entrer le peuple. Et les notarikones de cette phrase fait apparaître, Mitnavim, voilà ce qu'il pourrait utiliser. C'est-à-dire, il y a un procédé très rigoureux de lien entre la signification d'un message, d'un verset de la Torah, et d'autre part, la forme même dans laquelle c'est dit. Alors, un cas particulier de ce raisonnement par analogie, c'est la Gzera Shava. Les amis, les amis, on a le droit de raisonner par soi-même un raisonnement a fortiori, un Kal Vachomer. On n'a pas le droit de raisonner par soi-même une Gzera Shava, si ce n'est qu'on l'a reçu d'un maître avec l'explication. T'as compris? Alors, méfiez-vous de ça. D'abord parce que ça fait perdre du temps pour rien, et ensuite, ça met dans la tête des Chalomot.
Non, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait une confiance. Avant la naissance jusqu'à la mort,
vous avez expliqué tout. D'accord, mais dès que tu as dit Adam, Elohim, Dame, ça sent fabriqué. Tu comprends? Dans n'importe quelle science, quand on est habitué au procédé d'une science, il suffit, je ne sais pas moi, d'un coup d'œil sur une page pour savoir si c'est fabriqué ou si c'est authentique. Est-ce que c'est clair? Ça. Alors, ceci dit, je ne prends pas du tout. Je ne mets pas du tout en question la compétence de celui dont tu l'as entendu, mais cette chose-là. C'est l'honora kasher. Et ça, il faut faire attention, parce que vous allez être tenté, Ken, de faire des choses de ce genre, et de devenir des chercheurs en gematria, afin de sauver le monde par une découverte fulgurante. Méfiez-vous de ça. C'est clair, c'est vous. Voilà un exemple. Dans la controverse entre les théologiens chrétiens et juifs en Espagne, il y avait beaucoup de juifs qui sont convertis au christianisme, qui avaient un peu de petites connaissances comme ça, et qui sortaient des énormités. Je vous donne un exemple. Bereshit bara Elohim. Ça veut dire au commencement créa Dieu. Bara, alors vous expliquez c'est comme ça. Bara, il y a trois lettres. Bet, Resh, Aleph. Alors Bet, c'est Ben, le fils. Resh, Ruach, l'esprit. Aleph, Av, le père. Vous vous rendez compte? Qu'on peut tirer n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, méfiez-vous. D'accord? Bon, ceci dit, oublie, je ne sais pas de qui tu parles et je ne sais pas de quoi tu parles. On revient au sujet. Quand vous avez des choses de ce genre, il faut les vérifier dans les textes. Vous avez vu comment ça a procédé tout à l'heure. D'autant plus qu'il y a des choses qui parfois peuvent apparaître comme naïves, hein, et il faut citer la source, parce que si c'est Rabbi Akiva qui l'a enseigné, c'est évidemment pas naïf. Et il faut étudier qu'elle savait. Alors voilà donc, j'ai pas voulu entrer d'ailleurs dans l'approfondissement du monde de Adam, mais le Midrash le rattache à la racine ressembler à. Ça veut dire qu'il y a dans cet être qui s'appelle l'homme une capacité d'imitation qui définit sa spécificité parmi tous les autres animaux. Enfin, animaux. Être animé, être vivant. On appelle en français des animaux. Vous voyez, on a tendance à, par exemple, dans la phrase en français, l'homme crée le singe imite, on a tendance à attribuer la capacité d'imitation au singe, et l'imitation par les gestes au singe, l'imitation par la parole au perroquet, mais c'est un tout autre comportement, le fait de prendre un modèle qui est érigé comme objectif d'idéal et tenter de l'imiter, de devenir comme, eh bien c'est tout le problème de l'éducation dans la lignée humaine, et ça, en sociologie, ça joue un rôle extrêmement important. Pour expliquer les phénomènes sociaux, on est obligé de se reporter à cette identité de l'homme qui est capable d'imiter, d'imaginer et imiter, et c'est ce qui explique énormément des phénomènes de la société humaine, en particulier. C'est un exemple entre autres. Et alors, le fait de découvrir le mot de dame dans Adam, alors ça peut servir de base à des enseignements, je vous en donner un qui est classique, c'est parce qu'il est cité par Midrash, c'est que si l'unité disparaît de l'homme, il ne reste que le sang. Et à ce niveau, il faut comprendre quel est le message que la Kabbale a voulu transmettre à travers ce qui apparemment est un raisonnement par analogie, association d'idées. Et à l'œuf, ça veut dire l'unité, si à l'œuf disparaît, alors il ne reste que d'âme. Alors réfléchissez, il y a là un message cohérent. Un grand problème de l'humanité, où bien arrive à s'unir. Alors c'est la paix, si elle ne s'unit pas, les journaux sont pleins de sang. Enfin, de récits, donc, c'est clair, c'est dit. Voilà par exemple un enseignement qui vient à Khan. Donc, après tu me diras en aparté, qu'est-ce que tu as voulu dire en disant Elohim au sujet. Et ça veut dire que le mot de Adam signifie le concept d'homme. Et donc, si je comprends le mot de Adam en hébreu, je comprends ce que la Torah entend par un homme. C'est clair ce que je dis? Et alors ça, c'était la première génération, l'homme a le profil d'identité Adam. À la deuxième génération, l'homme a le profil d'identité Caïn. Il y a une manière d'être homme qui s'appelle Caïn. Et il y avait un modèle, un prototype, c'est que je suis Caïn. De la même manière, dans cette même génération, il y a un autre profil d'identité, un autre type d'homme qui s'appelle Hevel, Abel. Et alors ça veut dire qu'un fils d'homme, un Ben Adam, peut être soit plutôt Caïn, soit plutôt Hevel, et ce n'est pas la même manière d'être homme. Oui, ce qui s'évacue là, c'est l'idée abstraite, théorique, de l'homme avec un grand H, comme on l'emploie en français, qui ne veut rien dire, qui désigne personne. Qui c'est ça, l'homme de toujours et de nulle part? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Nous sommes tous des hommes très précis, très concrets, des personnes qui ont une identité bien précise. Je vous dis ça pourquoi c'est une grande différence entre l'enseignement de la Torah et toutes les littératures. Dans toutes les littératures où on parle de l'homme, alors on dit de belles choses, de grandes choses, mais ça concerne qui? Qui c'est ça, cet homme dont on parle? Ça concerne jamais le lecteur. Je dirais même, j'ai beaucoup étudié les livres des moralistes de Goy. Il semble y avoir un postulat entre l'auteur et le lecteur que c'est entendu que ce qu'on va dire, ça concerne ni l'auteur ni le lecteur. Alors que, avec l'étude de la Torah, c'est tout à fait autre. Autrement, la Torah concerne l'homme concret, la personne réelle, qui en fin de compte est le lecteur. Parce que finalement, quand j'étudie la Torah, le personnage qui est le héros du récit de la Torah finit par quitter le texte et c'est moi. Et c'est moi, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et c'est cette histoire qui est racontée, c'est la mienne. Un de mes maîtres utilisait ça comme argument pour dire c'est une des preuves, c'est un livre que personne n'a pu écrire. Personne d'humain n'a pu l'écrire. Parce que le héros du livre, c'est le lecteur. Vous avez compris ce que je veux dire? Dans tous les autres, si par exemple vous lisez un livre de morale de La Rochefoucauld, et c'est très intéressant comme message de moralité qui est véhiculé. Mais finalement, qui ça concerne? Est-ce que ça concerne La Rochefoucauld? Est-ce que ça concerne le lecteur de La Rochefoucauld? Ça concerne l'homme en général. de nulle part et de n'importe où. Voilà ce que je voulais dire. C'est que, en fin de compte, dans les langues anciennes, les hommes, chacun avec sa tradition et sa langue, savaient ce qu'ils voulaient dire quand ils désignaient un nom propre de quelqu'un ou de quelque chose, d'ailleurs. Ensuite, les termes sont devenus conventionnels. Et maintenant, homme, on peut mettre n'importe quoi là-dedans. Vous avez la lutte des partis politiques entre eux autour des droits de l'homme. Et chacun entend quelque chose de radicalement différent avec la même phrase. Au nom des droits de l'homme. Alors, au nom des droits de l'homme, il y a chaque chose et son contraire. Vous avez compris ce que je dis ? Mais par exemple, vous avez un programme de parti politique, pain, pays, liberté. Donc, les mots sont très beaux, sont vrais d'ailleurs. Ils sont séduisants, et derrière des slogans de ce genre, on massacre tout le monde. Vous avez remarqué, je pense, hein ? Au nom de la liberté, on va vous la priver de, on va vous priver de liberté, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que finalement, l'humanité semble avoir perdu le sens des mots qu'elle emploie. Alors, avec l'hébreu, la Shana Kodesh, l'hébreu de la prophétie de la Bible, et donc de la Torah, c'est tout à fait différent. Donc, je me raccroche à la question. À chaque génération, le nom du héros de la génération, c'est le nom d'homme de l'identité humaine à cette génération-là. Alors, il y a un projet de l'homme authentique qui se cherche dans les environnements de l'humanité, et le récit de la Torah nous montre que c'est à travers une certaine matrice d'engendrement qui en fin de compte est nommée Israël que cette identité de l'homme authentique se cherche à être engendrée. Et voilà toutes les étapes. Donc, alors je vous donne cet exemple et on va un peu l'analyser d'un exemple d'une Agada de la Torah, c'est donc vous l'avez dit dans la Sefet Sanhedrin de la Talmud. Alors je vous cherche le verset, je vais le référence tout de suite dans l'histoire de.
Oui.
La même capitale, c'était Timna. Alors la Agada que je vais vous citer se trouve, je ne l'ai pas là, pour devenir une Gemara de Sanhedrin, ça fait environ la page 90. Alors ensuite, le cas de quelqu'un qui était impertinent, il était assis à la yeshiva et interprétait des enseignements de méprisant le verset, le texte. Amar, par exemple, il disait, Bechi loyal le manche de tov, et la verhot le tam timna, betimna et la pédigèche le dikaz. Qu'est-ce que le texte avait besoin de donner ces annotations de généalogie aussi précises? La sœur de Lotan, c'est Timna, et Timna était la concubine d'Eliphaz, et d'autres exemples. Alors à ce propos, la Gemara enseigne ceci. C'était une princesse d'Echorite, et elle avait voulu devenir la femme d'Abraham. Ensuite, elle a voulu venir, et Abraham l'a repoussée. Parce que il y avait Sarah, je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire, elle voulait devenir, se convertir à Israël, mais à condition d'être la femme d'Abraham. Abraham l'a repoussée. Ensuite, elle veut avec Isaac. Isaac l'a repoussée. Pour les mêmes raisons et dans les mêmes circonstances. Ensuite, avec Jacob, et Jacob l'a repoussée.
Trois générations.
J'ai entendu. Tu crois que je ne me suis pas rendu compte? Alors, un peu de patience. Un peu de patience, je vous lis d'abord le. Alors, quand les patriarches m'ont repoussé, elle a dit, je préfère être une servante dans ce peuple qu'être une princesse dans un autre peuple. Elle est allée devenir la concubine d'un fils d'Ésaü et elle a eu pour enfant Amalek. Donc c'est un midrash assez énorme. Okay. Je vais essayer de l'expliquer. Pour qu'on gagne du temps, on va essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire Timna en hébreu? De quelle racine? Il n'y a pas de tableau, mais même Nun Aïn, qu'est-ce que ça veut dire? empêché. Ça veut dire, Timna, ça signifie celle qui est repoussée, empêchée de rentrer. Okay. Et c'est déjà le Midrash que je vous cite, il sait de quoi il parle. Il va parler de l'identité de Timna. Et alors, comme la question que vous avez posée, c'est qu'on pourrait expliquer de différentes manières, mais allons à l'essentiel. Il y avait Timna au temps d'Abraham, il y avait Timna au temps d'Isaac, il y avait Timna au temps de Jacob. Deuxième manière de voir la chose, et ça revient même d'ailleurs à un autre niveau, c'est un type d'identité, un profil d'identité permanent. Et la première couche du Midrash, c'est que lorsque l'identité des Avot apparaît dans le monde, elle est fascinante pour ceux qui étaient en quête d'une espérance. Et ça, nous devons donc rattacher cette première indication du Midrash au contenu même du message du récit de la Torah. Le récit de l'histoire de la Torah des différentes générations depuis le premier homme, c'est un récit très pessimiste d'échec perpétuel. En fin de compte, dans les 10 premières générations, ça culmine dans la catastrophe du déluge. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression, que alors qu'on s'attendrait que le récit d'un livre comme la Torah soit un récit d'espérance, ça commence par un pessimisme, une lucidité effarante. Hein? Mais en réalité, c'est clair, il y a le début. C'est Dieu qui crée le monde et le monde est dans l'état de chaos. Dieu qui organise un peu ce chaos et dès qu'il met l'homme pour l'habiter, l'homme détruit tout. Et ça va d'échec en échec. Ça fait plaisir aux écologistes, ce que je dis là. L'homme est comme disent les philosophes, l'homme est un prédateur. Est-ce que c'est un prédateur? Qui est prédateur? Ça veut dire un. Mazik, oui, en hébreu. La camaradie est mazik, même s'il dort. Qui dort ou qui est réveillé est dangereux. Bon. Alors on voit un récit d'une lucidité absolue, ça va d'échec en échec, comme si le message de la Torah semblait être, mais ça va changer, on est perdu, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de salut. Et puis, dès qu'apparaît l'identité d'Abraham, tout s'inverse. C'est la même histoire qu'il nous a racontée. Les situations d'identité de l'homme à partir d'Abraham sont très parallèles à celles qu'il y avait à partir d'Adam. D'ailleurs, Abraham est appelé le Adam Gadol Ba'anakim, donc je traduis ça en français. Abraham, et c'est le nouvel Adam. Il reprend en charge l'identité humaine. La Torah nous décrit les mêmes des situations analogues, d'où l'analogie des noms. Dafka, à l'inverse, prend la perspective d'une espérance de réussite. C'est-à-dire, le récit d'histoire globale, universelle et pessimiste, du dedans duquel apparaît un récit d'espérance à partir d'Abraham. À partir d'Abraham, le monde est sauvé, en principe. Il faut réaliser ce salut, mais le monde est sauvé. Jusque-là, c'est la désespérance absolue. Ce qu'indique le Midrash, qui dit que c'est par le mérite d'Abraham que le monde a été créé. Bon, vous voyez comment les Midrashim s'articulent. Et encore une fois, on ne peut pas raisonner de n'importe quelle manière. Il y a une cohérence très précise de l'enseignement de la Torah. Et alors, dès que l'identité d'Abraham apparaît, il y a dans le monde une attente d'espérance depuis l'origine. Et il y a une fascination. Par exemple, quand vous avez des versets qui nous racontent que lorsque Abraham est dans le pays des Hittites, on l'appelle prince de Dieu parmi nous. Quand il est en Égypte, on l'appelle la même chose, mais si Elohim a tapé le chevelu, alors qu'est-ce qu'on perçut le Goïm de ce temps en rencontrant cette identité des Hébreux? Un peu, tout ça a été banalisé, dissous, dilué dans la civilisation contemporaine, mais j'ai souvent l'habitude de dire que peut-être les Juifs sont les derniers à pouvoir le diagnostiquer, parce qu'ils sont Juifs. Mais les Goïm sont fascinés par le problème Israël, depuis l'origine, par la présence de l'identité Israël. Au point que vous avez un monde comme le christianisme, qui est un monde énorme, qui a fini par adorer Israël en effigie. Et vous avez des phrases de ce genre, dans leur croyance, le salut vient des Juifs. Il n'y a que les Juifs qui ne peuvent pas percevoir ça. C'est-à-dire la fascination que les Goïms ont vis-à-vis de l'identité Israël. C'est-à-dire c'est une fascination ambivalente, puisque finalement ils s'arrangent à nous adorer dans le ciel, mais à nous crucifier sur terre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, Israël, le sauveur du monde, à condition que ça se passe là-haut. Sur terre, c'est le gêneur universel. Vous savez qu'Israël, c'est le cauchemar de l'ONU. Vous avez remarqué ça. Elle n'a rien à faire qu'avoir des cauchemars sur Israël. C'est-à-dire, dès qu'Israël apparaît, l'humanité entière a mal au ventre. Vous avez remarqué ça. Elle a mal au cœur aussi. Encore une fois, c'est un phénomène qu'il faut arriver à diagnostiquer, mais encore une fois, je crois que les Juifs sont peut-être les derniers à pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Après tout, il faut être goy pour savoir quoi dire vraiment de ce que je décris là. Quand Israël apparaît, le monde entier perd le souffle. C'est clair ? Alors vous comprenez pourquoi le Midrash peut dire que il y avait dans cette peuplade d'Yahourit, une des peuplades qui occupait le pays avant la constitution d'Israël comme nation, on a entendu parler Abraham, Isaac, Jacob, ça sera un peu plus tard la femme de Potiphar avec Joseph, hein, c'est toi que je veux ou je meurs. Mais à peu près comment s'appelle-t-il là, j'ai oublié, Boujna parlait de ça. Hein. Et bien il joue à ça chez les princesses Goy de France. Hein. Dès que Boujna apparaît, tout le monde entre en France. Je veux mon juif tunisien. Sinon, je meurs. Bon. C'est un peu. Ou alors Enrico Macias ou n'importe qui. Quoi. Et les juifs jouent à ça avec une irresponsabilité tranquille. Parce qu'après, les pauvres sont frustrés. Comme la femme de Potiphar, je ne voulais pas ton déguisement, je voulais toi. Ah, mais moi je suis juif, c'est pour toi. Vous voyez les conséquences. Hein. Voilà, Timna. Bien. C'est un peu clair ce qu'a dit le Midrash. Donc. Et alors, la conséquence est terrible. C'est que Timna, repoussée, va chez Ésaü devenir la concubine d'un des fils d'Ésaü. Vous vous rappelez ce que disait le Midrash, même servante dans cette famille, même dans une branche, cadette de la famille, mais et pas princesse ailleurs chez les Goïs. Et alors, qui engendre Amalek? Alors la Gemara, dans cette page de Sanhedrin, va s'occuper du problème. Elle se pose la question, et alors, est-ce que les Avot, Abraham, Isaac, Jacob, avaient raison de la refuser, de la repousser, l'Imnoa, Eta, puisque la conséquence a été Amalek? Si vous avez fait un petit peu de psychologie, vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne, un complexe. Quand il y a un refoulement, alors un complexe se cristallise qui devient dévastateur. Vous voyez de quoi je parle, Ken? Est-ce que c'est clair? Et en général, le complexe travaille de façon dévastatrice, mais dans l'inconscient. Et un jour, ça éclate, Amalek. Et alors, ce mécanisme-là, du refoulement, et donc Amalek qui sort de là, la Gemara va s'interroger. Est-ce que les Avot ont bien fait de la repousser? On l'aurait accepté, et puis alors, on aurait évité Amalek dans notre histoire. Point d'interrogation. Okay. Et la Gemara décide, c'est des Amoraïm. Les Amoraïm sont les disciples des Tanaïm, qui sont les disciples des prophètes, qui ne sont que les petits élèves des patriarches. Et un Amora qui se prend le droit de critiquer la décision des patriarches. Vous voyez la surprise, hein, la Gemara décide, ils ont eu tort. Ils auraient dû accepter, parce que nous avons un principe, mito, selo lishma, balishma. Elle a voulu se convertir avec un motif intéressé, pour être la femme d'Abraham. C'est une conversion avec mariage, le bétine interdit, c'est le lishma. Mais la Gemara dit, mais il aurait dû l'accepter, parce que ça commence par être intéressé, mais en fin de compte, ça peut devenir désintéressé. Et nous avons un autre enseignement, dans tous les cas, on doit étudier la Torah, même si c'est de manière intéressée, par exemple, pour prendre le texte pour prétexte d'éditer un doctorat, vous savez qu'énormément de gens étudient la Torah pour ça, elle. Et c'est clair ce que je dis, méfiez-vous. Et parce qu'en fin de compte, il va se laisser prendre par la vérité de ce qu'il étudie, et il étudiera de façon désintéressée. Vous connaissez ce principe? Et toi, je le dis, je m'en vais. Alors la question est énorme. Comment la Gemara se permet de critiquer les Avot comme ça? Et les Avot, ils ne connaissent pas la Gemara? C'est
qu'est-ce que... Non seulement que la Gemara et les Amoraïm diraient qu'il ne faut pas le recevoir, mais il faut assumer la responsabilité de la non-réalisation de
ce... Oui, c'est la même question en fait. C'est la même question. Alors, réfléchissons un peu ensemble. Qui peut suggérer une explication de cette marloquette entre la Gemara. Et vous voyez pourquoi ce n'est pas du tout un sujet, comment dire, théorique. Nous sommes confrontés dans les batailles d'énigmes avec ces problèmes de conversion et de mariage sans arrêt. Vous comprenez ce que je dis? Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les Avot ont eu raison de repousser Timna, et puisqu'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient des raisons. Bon, pourquoi ils ont eu raison? Et pourquoi la Gemara a raison de dire il aurait fallu l'accepter? Un exemple, à propos d'un détail apparemment de ces questions de généalogie, je résume déjà provisoirement un peu, c'est que tous ces noms, ça renvoie à des identités, à des profils d'identité. Et comprenez bien cela. C'est pourquoi la Torah a un visage pour chaque génération. Voilà le verset. Dor, dor, vedor, shav, dor, dor, vachachamav. Ça veut dire chaque génération et ses enseignants, chaque génération et ses sages. Et le plus grand échec quand on est lié à la Torah, c'est d'être préhistorique ou futuriste. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. De comprendre comme il fallait comprendre il y a 1000 ans, ou de comprendre comme il faudra comprendre dans 1000 ans. Ça, c'est Zéterefa Zenevela. Et la Torah est très claire à ce sujet. Chaque génération, la Torah, c'est halakha le maaseh pour cette génération. Bon, vous comprendrez vous-même les implications. C'est le même peuple. Je vais donner un exemple. Voilà, et à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de chaque peuple, c'est le même peuple, c'est la même identité, et pourtant chaque génération est différente. D'or, d'or. Et je vais vous donner un exemple, peut-être une image que j'ai entendue, et peut-être ça vous éclairera, vous direz. Il y a dans des musées, il y a des vaisseaux d'antiquité qu'on a sauvés. Et puis finalement, vous avez un exemple, un vaisseau grec, je ne sais pas moi. On a dû, à travers les siècles, changer, à tour de rôle, chaque morceau de bois du vaisseau. Ce qui fait qu'au bout de X centaines d'années, on a changé tout le bois du vaisseau, mais c'est le même. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas compris. On peut dire, c'est ce bateau-là, et pourtant, c'est pas lui. Puisqu'à chaque génération, on lui a changé un morceau, quand même. Donnez un autre exemple. La personne individuelle de chacun. Nous avons traversé tous les âges que nous avons eus. Alors chaque homme, il a été ce qu'il a été à 8 ans, il a été ce qu'il a été à 10 ans, il a été ce qu'il a été à 20 ans. Et c'est très différent ce qu'il a été à 10 ans, à 8 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, mais c'est le même. Le problème de la responsabilité morale est lié à ça. Ah, si ce n'est pas le même, comment je vais pouvoir faire fonctionner le jugement? Hier j'ai fait quelque chose, mais aujourd'hui je suis différent. Et la Torah tient compte de ça. Que hier j'ai fait quelque chose, aujourd'hui je suis différent. Mais est-ce que c'est clair? Il y a un enseignement important, mais c'est clair, ça s'indique là-dessus. Donne des choses qui répondent. Alors il y a une sorte de mystère. Je ne suis jamais le même à chaque instant, et pourtant ça se récapitule dans la même identité, moi. D'ailleurs, la Gemara va se poser la question, à quel âge on ressuscite? À quel âge, quand on ressuscitera, Yumera Beyamenu, à quel âge? On va donner une réponse d'ailleurs. Mais vous comprenez le sens de la question? Et, alors voilà, on est peut-être un peu sur le bord de choses un peu vertigineuses, mais t'as compris? C'est la même humanité, mais à chaque génération, elle a un profil d'identité, un visage d'identité qui est bien précis. On ne juge pas un homme du 14e siècle comme on peut juger un homme du 20e siècle. Nous sommes chacun d'entre nous un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, jusqu'à avoir. Et chacun est un monde très précis de la manière d'être Israël. Oui, je ne sais pas. Si tu savais à quel point moi je sais rien, tu aurais peur. Mais je veux dire que, et c'est le tout problème tout à l'heure, quand on parle de l'homme avec un grand H, même à quel point toutes les préparations d'attention extraordinaires, et pourtant ça ne marche pas. Ça concerne qui tous ces déclarations des droits de tout ce que
Dieu. Non, c'est sûr que
c'est le même.
Il y a quand même un lien Ils ont des désirs communs, ils ont des
aspirations communes. Je viens d'analyser cela. C'est vrai, et le contraire, tout en vrai. Quel que soit l'homme, un homme, Ceci dit, chacun est différent de l'autre. Et heureusement, parce que s'il y en avait deux qui étaient égaux, il y en a un de trop. Vous me direz en hébreu d'ailleurs, j'ai l'habitude de le citer en hébreu. Quand on parle de l'égalité des hommes, à quoi on pense? On dit l'énormité. On ne peut pas additionner des hommes comme on additionne deux pommes. Deux pommes plus deux pommes, ça fait quatre pommes. Mais dès que je dis deux hommes, ça fait quatre hommes, je suis en plein dans une civilisation totalitaire. Les hommes interchangeables. Les hommes interchangeables, ça mène au camp de concentration. Les hommes, il y a un piège. À quel niveau on veut parler de cette égalité? Et je vais donner plusieurs exemples pour enrichir ça, parce qu'ils sont tellement impressionnés par la Révolution française, dont on commémore le centenaire.